Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Aborder les dernières sorties de nos éditeurs vidéo préférés en matière de fantastique et d'horreur. Nous reviendrons entre autres sur American Gothic, série produite par Sam Raimi, série qui est sortie chez Elephant Film, alors série culte pour avoir été censurée et interdite de diffusion à la télévision états-unienne. Nous reviendrons également sur une autre série, malheureusement la dernière saison d'une série que l'on aime beaucoup dans l'émission, qui s'appelle Channel Zero, et série anthologique là, et qui se termine par une saison 4 qui s'appelle The Dream Door. Nous reviendrons plus en détail donc sur cette porte qui mène vers le monde des rêves ou du cauchemar, allez savoir. Nous reviendrons également sur une variation autour des mains d'Orlac, hein, les mains d'un étranger de Newton Arnold. On ira aussi dans le merveilleux avec le conte du tsar Saltan d'Alexander Pouchko, c'est pas facile à dire, hein, voilà. Et tout ça c'est sorti chez Artus Film. Nous allons aussi parler d'une série qui n'est pas sortie ni en DVD ni en Blu-ray, mais qui est disponible sur une plateforme qui s'appelle Netflix. Je suppose que vous en avez vaguement entendu parler de cette plateforme. Et cette série, c'est Dracula. Dracula vu par Steven Moffat et Mark Gatiss. Alors le duo à l'origine déjà de la relecture, de la revisite de Sherlock Holmes, hein, avec Benedict Cumberbatch. La série, une série qui a marqué son époque. Est-ce que ce Dracula va revisiter Bram Stoker avec autant de génie que Sir Arthur Conan Doyle avait été revisité? Eh bien, on en discutera dans l'émission. Nous parlerons également d'une sortie chez Rimini, Le Harlequin de Simon Windsor, un film de 1980 qui vient donc de sortir chez Rimini. Et puis, on terminera l'émission par un genre que l'on aime beaucoup, le slasher, et on parlera d'un slasher sorti chez Rimini, un slasher de Roger Spottiswoode. Et oui, il a débuté par un slasher, c'était son premier film, qui est un film de 1980 qui s'appelle Terror Train. Et donc nous irons prendre le train de la terreur tous ensemble, tous les trois, puisque nous sommes trois dans ce studio avec mes deux fidèles acolytes donc, qui m'accompagnent aujourd'hui. Il y a, honneur au plus jeune, hein, Damien Demey. Damien Demey dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, alors maintenant il fait presque partie des murs, il est là depuis tellement longtemps dans l'émission. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, surnommé le loup-garou picard. Pourquoi ? Parce que d'abord il est picard, et puis ensuite parce que c'est vraiment un lycanthrope. Voilà, donc il faut faire très très attention et pas trop lui chercher des noises les nuits de pleine lune. Nuit de pleine lune qu'il consacre à rédiger de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site cultureaupoint.com. Voire à préparer son émission À l'écoute du cinéma, qui est diffusée sur Radio Campus Amiens. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes.
L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Victor Lopez, Kevin Boissaison et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission, ainsi que Jean-Pierre Vasseur. Nous allons débuter cette émission avec Nick Antosha, oui, parce que Nick Antosha est notre ami. Alors Thomas ne le sait pas, hein, que Nick Antosha est notre ami, mais pourtant c'est notre ami, car c'est le showrunner qui est à l'origine de la série Channel Zero. Channel Zero, pour le dire un peu à l'américaine, hein, tel que d'ailleurs le chantait très bien le groupe Public Enemy, hein, dans un morceau éponyme. Et donc Nick Antosha, c'est le créateur de cette série anthologique, hein, Channel Zero, où à chaque saison, hein, je rappelle le principe de la série anthologique, c'est que chaque saison est une histoire différente, avec des acteurs différents, voilà. Enfin bon, là en l'occurrence, il y a des acteurs différents, c'est pas toujours le cas, mais chez lui, oui. Et cette nouvelle saison de Channel Zero est un peu particulière, puisque après avoir... Channel Zero, c'est quand même une série qui a gravité dans plein d'univers différents, hein. Il y a eu des saisons plus ou moins gore, des saisons plus ou moins intimistes, il y a eu une saison très freudienne, on va dire, la deuxième saison. Et puis là, on arrive sur une saison jungienne. Hein, il explore les deux versants, hein, de la même pensée, enfin, en tout cas, de deux penseurs proches, à la fois amis et ennemis, hein, devenus les meilleurs ennemis du monde, à travers une histoire incroyable. Un jeune couple d'Afro-Américains qui s'installe dans une maison familiale, hein, puisque une maison immense. On devine qu'il n'avait certainement pas les moyens de se la payer, mais là, il l'hérite en quelque sorte, et qui trouve une porte dans cette maison, une porte qui n'était pas là quand ils ont emménagé dans la maison, ou du moins qu'ils n'avaient pas vue. Et, eh bien, ils découvrent, enfin, ils ont envie de savoir ce qui se cache derrière cette porte, et bien sûr, ça va être compliqué déjà d'ouvrir cette porte, et cette porte va amener d'étranges surprises. En particulier, Damien, une sorte de croque-mitaine en forme de clown horrible et désarticulé qui t'a profondément marqué, je crois.
Oui, moi, ce clown, je l'ai adoré. J'attendais chacune de ses apparitions, souvent morbides. Donc oui, cette quatrième saison de Dream Door m'a réconcilié avec la série, où la troisième saison m'avait un peu éloigné de cette série. J'ai donc repris sur les conseils de votre serviteur Jérôme, ici présent, qui m'avait dit qu'elle est très semblable à deux, qu'elle était presque aussi bonne, et je suis d'accord avec lui qu'on retrouve pas mal d'éléments déjà présents. Déjà, c'est l'organisation de l'espace, et de plus, ce sont les apparitions qui ont lieu à travers cette série. Le point fort, donc, comme on l'a dit, c'est ce clown que j'adore vraiment. J'adore la façon dont il marche, dont il court, de la façon dont il pénètre dans certains endroits à sa façon, toujours de manière glauque, et c'est toujours intéressant parce qu'il a toujours un énorme sourire. C'est aussi un personnage très mutin, ce qui fait que à chaque fois qu'il intervient, il pose un malaise dans la salle où il arrive. Et l'un des rapports aussi qu'on retrouve avec la saison 2, c'était tout le rapport qu'il y avait avec ce passé. Finalement, dans la saison 2, ce passé nous empêcher d'avancer était vu comme un malheur, alors que cette fois, ce passé va au fur et à mesure être vu comme une force pouvant faire la différence. Il y a peu d'épisodes, ce qui est toujours la force de Channel Zero. J'ai trouvé au début que sur les premiers épisodes, j'avais l'impression que l'intrigue s'essoufflait assez rapidement, mais elle reprend vite un second souffle et nous offre un final totalement intéressant. Et au final, cette Dream Door porte bien son nom, vu que c'est finalement une porte qui mène à des possibilités infini, qui peut être aussi cauchemardesque, le plus parfait des fantasmes et des bonheurs.
Ouais, j'ai envie de dire, c'est une saison, enfin, en tout cas, qui est vraiment intéressante, puisque son sujet sous-tendu, c'est la matérialisation de l'inconscient. Enfin, voilà, donc c'est en ce sens-là que c'est une série hautement psychanalytique, hein, et qui évoque grandement avec, en fait, ces personnages qui se matérialisent, qui sont l'expression, en fait, de notre inconscient, et qui sortent de derrière des portes, puisque c'est ça, ce fameux clown désarticulé. Mais il n'y a pas que ce clown désarticulé. Il y a d'autres personnages, hein, voilà, que l'on peut faire apparaître dans certaines conditions qu'on ne vous révélera pas, mais amène la série là vers quelque chose de très, j'ai envie de dire, très Cronenberg. D'ailleurs, il est difficile de pas penser à Chromosome 3, pour ceux qui ont vu Chromosome 3, lorsque l'on voit ces personnages, sauf que dans Chromosome 3, ils sont, l'émanation psychosomatique, en fait, du corps de Samantha Eggar. Là, c'est autre chose, puisque c'est la matérialisation de l'inconscient, d'ailleurs, et pas toujours dans ce qu'il a de mauvais, aussi dans ce qu'il peut avoir de bon. Et d'ailleurs, cette saison pose aussi la question de la frontière entre le bien et le mal. Et puis, c'est toujours un plaisir de retrouver des acteurs de série B comme on les aime dans des seconds rôles. Il y a Greg Henry, hein, qu'on a pu voir dans Payback, Horribilis, Les Gardiens de la Galaxie, qui a une courte apparition. Et puis il y a surtout, un peu une femme dont le temps n'altère pas la beauté, c'est Barbara Crampton. Alors Barbara Crampton, l'héroïne de Réanimateur, je ne vais pas rappeler à chaque fois la scène qui a rendu culte à Barbara Crampton, je la cite assez régulièrement dans l'émission, hein, c'est quand même la scène de Cunnilingus la plus étrange de l'histoire du cinéma, voilà. Donc, Barbara Crampton, ici, elle a un rôle un peu mystérieux. D'ailleurs, on aurait aimé peut-être développer un peu son personnage. En fin de compte, on regrette presque ce personnage mystérieux, mais bon, le mystère fait aussi partie de la série, qui est une série mystérieuse. Alors, par contre, moi, je partage, Damien, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté déséquilibré, il y a une mise en place qui est assez longue, alors qui n'est pas désagréable à regarder, mais qui est assez longue. Et puis, il y a clairement un épisode qui tourne un peu en rond. Il y a toujours un épisode qui tourne un peu en rond, d'ailleurs, dans chaque saison, hein. Et puis, tout à coup, l'intrigue est relancée. Mais alors, au moment où elle est relancée, il y a une sorte d'overdose d'événements. Il se passe plein de choses, en peu de temps. Peut-être que la saison aurait gagné à être plus équilibrée en termes d'écriture. Ça reste pour moi quand même une très bonne saison. Et puis, une volonté vraiment de faire quelque chose qui fait peur. C'est assez rare, c'est-à-dire on n'est pas dans la monstration, on n'est pas dans l'étalage de gore et tout. Bon, ça peut être violent, mais là, on n'est pas là-dedans. Et l'effort est à souligner parce qu'il y a un vrai effort de mise en scène pour instaurer justement un climat de terreur. On joue sur les cadres dans le cadre, en particulier avec cette histoire de porte. Là, c'est plutôt bien amené et c'est intéressant. Et ça fait regretter quand même à pas mal de spectateurs que... la série s'arrête au bout de 4 saisons puisque elle avait permis justement un peu de renouveler ce genre de série anthologique qui est un genre assez bancal et pas toujours bien honoré par les showrunners à la télé. Hands of a stranger that he could no longer control. Hands of a stranger with a primitive urge to kill. Hands of a stranger reaching for the soft flesh of the girl he loved. Vous écoutez Culture Prohibée. Et je vois Thomas Roland qui lève les yeux au ciel. Et oui, le loup-garou Picard est à deux doigts de me griffer. Donc je vais tout de suite lui passer la parole, non pas pour parler de ses doigts, mais d'une variation autour des mains d'Orlac.
Les mains d'un étranger de Newt Arnold, le meilleur film de la dernière salve classique de chez Artus Film en DVD, qui est effectivement une variation sur les mains d'Orlac. Bon, c'est pas un grand film, je trouve que c'est un petit film fantastique, sympathique. La scène d'ouverture est très chouette, elle fait très film noir. Alors on se dit, le film va être vraiment bien, mais finalement ça retombe très vite. C'est très bavard, c'est un peu empesé au niveau de la mise en scène. Bon, c'est l'histoire d'un pianiste qui a un accident de voiture. Enfin, en même temps, il parle au chauffeur. Hein, quelle idée ! S'il parlait pas au chauffeur, il n'aurait pas eu d'accident. Et il perd ses mains. Et comme il y a un cadavre d'un étranger, d'un homme que personne ne connaît et qui est arrivé à la morgue, un médecin décide de faire l'expérimentation, de lui greffer des nouvelles mains. Bon, seulement, apparemment, cet étranger avait des tendances un peu homicides et un peu violentes. Et ce pianiste ne va pas faire que jouer du piano. D'ailleurs, je crois qu'il n'en jouera plus du tout. Et il va se mettre à tuer des gens bien malgré lui, à devenir violent. Voilà, c'est un peu le résumé de ces mains d'un étranger, qui est un film... c'est un petit film fantastique qui tient la route, mais comme je disais, c'est quand même bavard. Esthétiquement, c'est chouette. Moi, je trouve que le film est esthétiquement chouette. C'est bien cadré. Il y a quand même une belle lumière, mais c'est plombé par des tunnels de dialogue sans fin. Et puis, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau du scénario aussi. Je trouve que c'est un peu mièvre aussi, parfois.
C'est un peu dur, c'est quand même un bon film. Ah, c'est quand même bien. Alors, je suis pas étonné que tu relèves la mise en scène, parce que c'est un côté très sec. Comme tu aimes, ça, je sais que c'est quelque chose que tu aimes. Il y a des moments de violence même assez étonnants. Il y a une scène avec un chauffeur de taxi qui est assez étonnante. Il y a le travail du chef opérateur, qui est un chef opérateur qui vient de la télé et qui est assez talentueux, qui s'appelle Henry Kornjäger Jr. Et c'est vrai qu'il fait un très beau boulot. Moi, je trouve que c'est une très bonne série B. Voilà, on passe un bon petit moment. Ce qui est rigolo, c'est que le réalisateur, quand même, le réalisateur de Tous les coups sont permis, en 1988. Le premier succès de Jean-Claude Van Damme au cinéma, hein, voilà, hein, le fameux Tous les coups sont permis, alias Bloodsport. Évidemment, hein, Bloodsport, qui est le film qui a fait péter un paquet de tibias le long des lampadaires pour un paquet de jeunes issus de ma génération qui s'entraînaient à être aussi fort que Jean-Claude Van Damme. Alors que si t'es pas aware, tu peux pas être aussi fort que Jean-Claude Van Damme. Mais c'est rigolo, je trouve que c'est rigolo que ce soit le même metteur en scène quand même qui signe ce film. D'ailleurs, en 26 ans, il n'a signé que 3 films, Newt Arnold, dont ces deux-là. Quand même, et un film d'horreur que je n'ai pas vu qui s'appelle Blood First, et du coup ça donne un peu envie de le voir quand même, parce que c'est atypique comme carrière, un film d'horreur de 71.
Le conte du tsar Saltan, d'après le chef-d'œuvre du poète russe Alexandre Pouchkine.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD fantastique et horreur. Je reste donc chez Artus Film, après le film de Newton Arnold. Et moi, je vais vous parler d'un film d'Alexander Touchko, qui est un réalisateur quand même assez intéressant pour la génération de cinéphiles, en tout cas pour la mienne, puisque c'est quelqu'un qu'on a découvert beaucoup à travers la VHS, à travers les éditions, par exemple, du Géant de la Steppe chez Hollywood Video, ou aussi, qui a été réédité d'ailleurs chez Backfilm, Le Tour du Monde de Sadko. Et c'est un réalisateur vraiment très très intéressant, qui est un des maîtres de l'heroic fantasy et du merveilleux au cinéma chez les soviétiques, hein, puisque les films qu'il fait sont faits pendant que l'URSS, le régime de la République socialiste soviétique, était en place. Et comme souvent, évidemment, le fantastique, le merveilleux, ça sert à raconter autre chose. Et évidemment, c'est toléré par le pouvoir, puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture que l'on ne voit pas toujours forcément. Bon, ça ne fait pas de Touchko un grand réalisateur politique, mais ça en fait quand même un réalisateur passionnant, un formaliste assez, assez extraordinaire, et qui mériterait, à mon sens en tout cas, alors c'est un cinéma naïf, hein, c'est vrai, hein, mais d'être réévalué. Voilà. Le cinéma merveilleux soviétique, d'ailleurs, a souvent été un sous-genre très peu évoqué dans les revues, Je vais renvoyer vers un vieux numéro du fanzine dont j'étais le rédacteur, ça s'appelait Fantasticorama, et je crois qu'on était les premiers, un monsieur qui m'avait envoyé un dossier là-dessus, on était, je crois, les premiers en France à en parler, alors qu'en fait, il y a tout un courant du cinéma soviétique qui est un courant de grande qualité et qui vaut bien, quelque part, qui est un peu l'équivalent du travail de George Pal, par exemple, aux États-Unis. Des gens comme Ptouchko sont les équivalents un peu de gens comme George Pal. Et là, bon, celui-ci, c'est pas son meilleur film, hein, parce que l'histoire est vraiment trop enfantine, mais ça reste quand même très, très intéressant. Hein. Donc, on se retrouve... on est dans une Russie imaginaire, évidemment, une Russie merveilleuse. Et le tsar Saltan est choisi parmi trois sœurs, la cadette comme épouse. Et elle est très belle, évidemment. Hein. Et les deux sœurs aînées deviennent cuisinières et couturières de la nouvelle tsarine. Et évidemment, elles ne sont, elles, pas du tout contentes de leur sort, comme on peut le deviner. Alors, la tsarine est enceinte, le tsar s'en va combattre, et elle met au monde un enfant à la croissance miraculeuse. Bon, en gros, c'est la progéria inversée, quoi. C'est-à-dire que le gamin atteint une taille phénoménale et des proportions incroyables très rapidement. C'est le prince Gvidon. Et son époux, lui, ben, le tsar, il est toujours en campagne, il est toujours en guerre. Et puis, il y a un conseiller à la cour qui est un traître, évidemment. Les conseillers à la cour sont souvent des traîtres, hein, d'ailleurs, dans à peu près toutes les histoires. Voilà. Et là, c'est un traître. Et avec les sœurs de la tsarine, évidemment, hein, il va mettre au point un stratagème et, un message du tsar qui arrive à la tsarine va en fait être complètement modifié. Et on va ordonner l'exécution de la tsarine et de son fils. Voilà. Et les deux sont jetés à la mer à l'intérieur d'un tonneau scellé. Et ils échouent sur une île déserte où le fils, devenu précocement un beau damoiseau, sauve un cygne qui se révèle être une princesse victime d'un enchantement. Voilà. Et là, l'histoire va bien sûr évoluer. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Si ce n'est que, comme d'habitude chez Ptouchko, on reprend un texte assez célèbre. En l'occurrence, c'est un texte d'Alexandre Pouchkine. Hein, et il y a la figure classique du roi manipulé, trop confiant. On va retrouver des éléments classiques du merveilleux soviétique, des écureuils dansants, par exemple, des géants, la figure du cygne qu'on retrouve très souvent, qui se transforme évidemment en fée très très belle, hein, qui est interprétée d'ailleurs par une danseuse du Bolchoï. Et visiblement très célèbre danseuse. Hein. Bon, là, j'avoue que je ne m'y connais pas assez en danseur du Bolchoï pour avoir un avis là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un film plein de couleurs, une photographie très belle, beaucoup de comme une succession de tableaux, des trucages optiques très réussis, et comme d'habitude, alors même si c'est très enfantin, si vous avez gardé votre âme d'enfant, comme d'habitude, chez Pouchko, vous allez être transporté. Et j'espère que dans les auditrices et auditeurs de Culture Pro B, il y en a quelques-unes et quelques-uns qui ont gardé leur âme d'enfant et qui vont se précipiter sur ce conte du tsar Saltan. Écoutez Culture Prohibée. Nous allons repartir explorer l'univers des séries télévisées avec le Dracula de Stephen Moffat et Mark Gatiss. Relecture donc du fameux ouvrage de Bram Stoker. Damien, je crois que toi, cette relecture, tu as envie de nous en parler. Je sens que tu as envie de nous en parler.
Oui, c'était un plaisir de retrouver mes deux grands amours de créateurs que sont Stephen Moffat et Mark Gatiss. Comme d'habitude, il s'attaque à une réécriture, ce qui est un peu devenu, en tout cas pour Moffat, sa spécialité. Il avait déjà fait le coup en 2007 avec Jekyll, qui était la première fois où j'ai pu voir son œuvre et que je l'avais rencontré. Et plus tard, tout le monde l'a découvert avec Sherlock en 2010, où il a bien mis le pied dedans et qui a eu un grand succès. Donc ici, on se retrouve avec un Dracula qu'il modernise. Mais sans le mettre dans le présent comme il l'a fait pour Jekyll ou Sherlock, c'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire mais en se basant à l'époque où cette époque gothique où elle est créée, et on retrouve les mêmes personnages de base dans l'époque qui vont, c'est-à-dire finalement cette Angleterre victorienne avec ce Jonathan qui va dans les contrées perdues d'Europe de l'Est pour rencontrer Dracula, et ce dernier va acheter une demeure en Angleterre. Et ce Dracula est super bien, je trouve. Il est joué par Claes Bang, qui réunit de gros points forts, qui fait qu'il est extrêmement charmant, séduisant, vraiment très magnétique. Donc on retrouve ce côté séducteur de Dracula, mais il a aussi un côté très intellectuel par rapport à la façon dont il réfléchit, par rapport à ce qu'il cherche, la manière dont il met en place ses stratégies. Et on retrouve aussi un côté effrayant, qui est un peu la base de Dracula. Et tout ça crée un magma autour de ce personnage vraiment intéressant, où en même temps, on adore ce personnage, mais en même temps, il nous effraie un peu beaucoup. Et c'est un super point, ce mouvement d'attirance et de rejet. C'est un peu, je la mettrai un peu en parallèle avec le Dracula de la série de jeux vidéo ou de la série plus récemment animée Castlevania. Et donc ici, on se retrouve avec trois épisodes d'1h30, ce qui est un peu bizarre parce que à la moitié des épisodes, on a toujours l'impression que l'épisode pourrait s'arrêter et passer à autre chose. Et il continue, il est toujours relancé par une sorte de twist toujours ici. La réaction générale, c'est que tout le monde est assez mitigé, tout le monde est d'accord sur le fait que le deuxième épisode est le meilleur. Pour ma part, je suis conquis du début jusqu'à la fin. Je trouve l'esthétique vraiment très remarquable et pour moi, c'est un très bon show télévisuel, donc fait par BBC One et Netflix, et qui est actuellement sur Netflix en France. Et si vous êtes en Angleterre et que vous écoutez cette émission, félicitations à vous, vous l'aurez sur BBC One. Mais oui, c'est une série que je conseille particulièrement, surtout si vous avez aimé Sherlock. On retrouve les différentes façons de faire de Moffat et de Gatiss qui sont, à mes yeux, un délice visuel et sériel.
Bien Damien, tout comme toi, je vais revenir sur une série télévisée. Alors, une série télévisée qui appartient, peut-être pas à la préhistoire des séries télé, mais au moins à l'Antiquité. Hein, voilà, on va dire 95-96, ça va peut-être paraître très très lointain pour certaines de nos auditrices, certains de nos éditeurs. C'est une série produite par Sam Raimi. Alors Sam Raimi, c'est bien sûr la trilogie Evil Dead, la série Ash versus Evil Dead. Voilà, donc Sam Raimi aura toujours mon éternel respect, puisque même s'il a fait Oz, bon allez, pas la série télé, hein, le film, je lui en veux pas trop, il m'a fait triper sur tellement de films. Et donc, en 95, il lance une série qui s'appelle American Gothic. Évidemment, en référence à la fameuse peinture de Grant Wood. Alors, qu'est-ce que ça raconte American Gothic ? Parce que je vous ai quand même dit en intro de cette émission que la série a été littéralement stoppée par la censure. Hein. Les Américains n'ont jamais vu la première saison complète, puis du coup, ça a mis fin à la série. Ça a été très vite, hein. Voilà. La série, en fait, elle est très dérangeante. Alors, c'est l'histoire, une histoire qui se déroule dans une ville imaginaire, hein, de la Caroline du Sud, qui s'appelle Trinity. Alors tout ça a un sens, il y a beaucoup de références bibliques en fait dans la série. Il y a un shérif particulièrement bizarre, sadique, qui s'appelle Lucas Buck. Et il y a un jeune enfant qui s'appelle Caleb Temple. Et il y a un lien particulier entre ces deux personnages. Et le shérif, en fait, au lieu de faire régner la loi telle qu'on l'entend habituellement lorsqu'on dit le terme shérif, hein, et bien là non, le shérif c'est un tueur, c'est un violeur aussi. Donc c'est quand même un personnage assez peu recommandable. L'une de ses victimes est la mère de Caleb, d'ailleurs, qu'il a violé devant les yeux de sa fille aînée, Merlin Temple. Voilà, donc c'est un type très sympathique. C'est le héros de la série, quand même. Alors déjà, ça part mal pour, effectivement, les censeurs. Déjà, ça les amuse moyen, je pense. Évidemment, Merlin, elle est traumatisée. D'ailleurs, elle est jouée par cette actrice qui est devenue célèbre hein, pour Sarah Paulson, pour ses rôles dans la série. Là, elle est toute jeune pour ses rôles dans la série American Horror Story, voilà, qui est aussi une série anthologique de qualité, même s'il y a des saisons inégales. Hein, voilà. La dernière étant pas extraordinaire, 1984, là, sorte de parodie de slasher un peu méta qui m'a un peu fatigué. Et en fait. Caleb, c'est l'enfant du viol, en fait. Voilà, quoi. Hein. Et du coup, la mère se suicide. Donc, voilà, tout cela est très sympathique. Et pourtant, ce shérif si sympathique, papa violeur, hein, donc, décide de faire l'éducation de son enfant et d'une manière particulière. Alors, il règne d'une main de fer sur cette ville de Trinity. On peut supputer qu'il a des pouvoirs diaboliques, des pouvoirs surnaturels, hein, et il fait de la vie de ses concitoyens, tout du moins ceux qui lui désobéissent, un véritable enfer. Hein, voilà. Et donc, et ben, à partir de ce pitch, comme l'on dit, qui est quand même une série créée par Sean Cassidy, qui créera des années plus tard la série télé Invasion. Là, c'est une série qui est une série qui a vraiment, à l'époque, moi je me rappelle de la diffusion sur 13e rue en France, où là par contre en France on a eu tous les épisodes, avant justement qu'elle soit là rééditée par Elephant Film. C'est vraiment une série qui m'avait marqué à l'époque parce que ça ressemblait, alors formellement c'est pas extraordinaire, mais ça ressemblait dans ce que ça racontait à aucune série, quoi. Voilà, c'était vraiment glauque, sombre. Étrange. Gary Cole dans le rôle du shérif est vraiment vachement bien. Enfin, il a ce côté flippant. Voilà. À la fois, il a du charisme et à la fois, il est effrayant. La série, alors, elle a pas grand-chose à la limite à voir avec ce couple de fermiers fourche à la main que l'on voit dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure de Grantwood. Mais par contre, elle va très très loin. Dans la noirceur, c'est assez étonnant. Il y a un côté dans la description de ce petit patelin, un côté très Stephen King. On met aussi pas mal, ça va faire redondance, mais on met à mal la religion, tout en restant ambigu quand même. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui va très loin dans la noirceur et qui va jusqu'au bout. Et à l'époque, on pouvait pas montrer de nudité, par exemple, mais même sur le sexe, sur la trivialité, c'est aussi une série qui n'hésite pas à faire voir des choses ou à évoquer des choses assez peu ragoûtantes. En fin de compte, c'est une série assez immorale. Et je ne suis pas étonné qu'elle ait été victime de la censure que sa diffusion ait été arrêtée. Ce qui est quand même décevant, c'est que du coup, cette série n'aura jamais de suite. Donc je vous invite à voir cette date dans l'histoire des séries télévisées, hein, puisque on y retrouve des choses pas très éloignées de Twin Peaks, par exemple, tout ça. Enfin bon, des choses qui vont influencer d'autres créateurs. Disons que c'est une série qui est arrivée un peu trop tôt. Et je pense qu'aujourd'hui, si HBO lançait une série telle que celle-ci, en montrant un peu plus, parce qu'aujourd'hui on peut en montrer un peu plus, elle aurait un succès énorme.
Si nombre de cinéphiles connaissent Roger Spottiswoode pour des films comme Under Fire, par exemple, qui sait qu'il a débuté par un slasher avec Jamie Lee Curtis, à l'époque où elle tournait que des slashers, hein, la période de sa vie, la période post-Halloween 1 et 2, un film qui était sorti en VHS dans une copie assez déplorable en France sous le titre Le Monstre du Train. Un film, tenez-vous bien, avec David Copperfield, et oui, en personne, le magicien. Un film un peu particulier, un peu singulier, puisque c'est un slasher qui se déroule entièrement dans un train, c'est pour ça que ça s'appelle Le Monstre du Train. La Rimini l'a ressorti dans une très belle édition Blu-ray DVD, sous son titre original, Terror Train.
Eh bien, Thomas, toi qui es un fan de slasher, que penses-tu de ce slasher qui date de 1980, donc année, normalement, grande année pour le slasher?
J'aime beaucoup Terror Train, que je viens de découvrir, je ne l'avais jamais vu. Hein, en grand fan de slasher, c'est un film que je n'avais jamais vu. Et j'aime vraiment beaucoup, je trouve que le film est assez original. Déjà, je trouve que le film est plastiquement superbe. Je trouve qu'il y a une très belle photo. C'est John Alcott hein, qui a notamment travaillé sur Kubrick. Et je crois que c'est le même John Alcott qui travaillait chez Anthony Mann aussi, non ? Il me semble. Hein.
Oui, c'est lui. Et puis c'est lui qui a fait le fameux exploit des éclairages naturels à la bougie pour Barry Lyndon.
Voilà, c'est lui. Et, donc le film, moi, je trouve qu'il est très beau plastiquement. Il y a des très beaux clairs-obscurs. Enfin, la photographie est assez sombre en général. Il y a quelques plans quand même très sombres hein, dans la copie Blu-ray. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc l'histoire, il y a un trauma au début. Hein, on sait tout de suite qui est le tueur. Mais ce n'est pas vraiment l'enjeu du film. L'enjeu du film, c'est de savoir où est le tueur. Voilà, parce que le tueur est caché, se déguise. Car c'est 3 ans plus tard, après ce trauma, où ils font une mauvaise blague. Des étudiants en médecine font une mauvaise blague à l'un de leurs camarades en disant qu'il va coucher avec Jamie Lee Curtis. Alors on comprend qu'il est un petit peu émoustillé, un petit peu excité. Mais en fait, il lui présente un cadavre en lieu et place de la jolie Jamie Lee.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD, fantastique et horreur.
3 ans plus tard, ils font une fête de fin d'études dans un train. Voilà, c'est très original. Hein. Il y a un petit côté Agatha Christie, un crime de l'Orient Express, à part que là, il y a beaucoup plus de morts que dans le crime de l'Orient Express. Et ça commence très tôt d'ailleurs. Il y a un mec qui se fait embrocher. Alors, personne ne le voit, tout le monde croit que c'est une sale blague. Le mec fait une blague. Mais en fait, il se fait vraiment embrocher par une épée avant de monter dans le train. Et donc, à partir de là, on se dit où est-ce qu'il va se planquer le gars ? Qui est-il ? Parce qu'il se présente sous un déguisement. Et en fait, moi, je trouve que le film est assez original parce que on découvre, il y a un personnage qui découvre les cadavres très tôt. Généralement, dans les slashers, les cadavres, on les découvre qu'à la fin. Ils sont planqués à droite, à gauche, ils tombent d'une porte, d'escalier, etc. Enfin bref. Et là, c'est un acteur, un vieux de la vieille, un Ben Johnson, qui joue un contrôleur de train et qui trouve un cadavre très tôt. À partir de là, c'est qui est le tueur. Enfin, on sait qui est le tueur, mais seulement où se cache-t-il et comment, sous quel déguisement il se cache. Bon, les plus avisés le trouveront assez facilement, parce que si on a l'œil, on le trouve assez facilement. Mais voilà, c'est un peu l'enjeu du film. Bon, il y en a qui trouvent que c'est un peu long, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il y a une belle tension dans le film. Je trouve que le film, il tient bien en haleine pendant un bon moment. Je trouve qu'il est bien rythmé, bien foutu. Pour moi, c'est un très bon slasher.
Effectivement, le film a quelques longueurs par moment, parce que c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, mais alors, plastiquement, le film est superbe. Ça, c'est vrai que la photographie, elle est incroyable. Comment dire, on découvre même dans les bonus du Blu-ray DVD que avec les appareillages que mettait en place Alcott, en gros, personne croyait qu'il allait réussir une photo aussi extraordinaire. Alcott, qui à l'époque sort totalement épuisé du tournage de Shining, il est très content de faire un petit film. C'est presque le miracle hein, que Alcott se retrouve sur ce tout petit budget. Voilà, c'est quasiment miraculeux. Et il apporte, c'est clair, je pense que la présence d'Alcott apporte un plus indéniable dans le choix des cadres et tout ça, parce qu'on est quand même dans un huis clos, c'est pas évident, c'est sombre en plus, donc et il fait quelque chose d'assez chouette au niveau plastique. Peu de temps après, il va faire Darl Invincible de Coscarelli, hein, qui est un film que personnellement j'aime beaucoup, mais c'est très bis, et qui va faire aussi un film que j'adore, qui est un chef-d'œuvre méconnu, j'en profite pour en parler, parce qu'il va bientôt ressortir chez Jean-Baptiste Torré dans la collection Make My Day, c'est Vice Squad de Gary Sherman, réalisateur totalement oublié, sur lequel un jour d'ailleurs il faudra peut-être faire une émission, parce que pour moi c'est un grand metteur en scène de son époque, qui a totalement disparu après quelques échecs financier surtout, et qui était un réalisateur immense, puisqu'on lui doit Le métro de la mort, on lui doit aussi Réincarnation, un incroyable film. Voilà, et V-Squad, c'est en gros l'épopée d'un... d'un macro pervers taré, quoi. Voilà. Là, des pervers et des tarés, il y en a quand même quelques-uns. C'est assez rigolo. C'est le jeu avec les masques. Effectivement, Thomas, ça, tu as raison. Il y a le jeu avec les masques qui, du coup, donne un côté, plus qu'un côté Woodunit encore. C'est le côté Woodunit décuplé. Et par contre, si le film, je trouve qu'il a quelques longueurs, je reconnais comme qualité au film d'éviter les twists à répétition, vu qu'il nous révèle assez vite l'identité. Il nous révèle assez vite, on sait qui va être le tueur, en fait. Voilà. En fait, on s'amuse plutôt à le chercher parmi les protagonistes en tant que spectateur, puisqu'on sait déjà qui c'est. On sait physiquement à quoi il ressemble. En 3 ans, on ne change pas de tête de manière fondamentale, quoi. On sait qu'il a cette tête-là et on le recherche. Voilà. Et puis, il y a une utilisation aussi qui est assez intéressante, c'est celle de ce magicien qui est vraiment campé par David Copperfield et qui fait donc un spectacle de magie dans le train parce qu'ils ont invité un magicien à faire un spectacle. Et du coup, il y a tout un délire aussi autour de la magie qui permet d'agrémenter le récit de quelques scènes assez savoureuses. Et puis, évidemment, Copperfield fait preuve d'un certain talent dans l'arc, un arc qu'il maîtrise. Bon, il est meilleur magicien que comédien, on va dire, ça c'est sûr.
En même temps, c'est quelque chose qui s'imbrique vraiment dans le film, vu que c'est un film où on parle d'illusion. Le personnage qui se cache derrière les masques, on parle d'illusion. Il y a aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ce film, c'est notamment il y a le générique de début, mais il y a aussi plusieurs plans qui ponctuent l'intrigue. C'est la façon dont est filmé le train qui donne une aura vraiment fantastique. Ça fait vraiment comme si le véhicule sortait de l'enfer ou allait vers l'enfer. Il donne vraiment une aura de malédiction à ce train, un train à vapeur en plus, c'est pas un train électrique, c'est un train à vapeur qui donne vraiment quelque chose de beaucoup plus fantastique au film. Donc moi j'aime beaucoup ce Terror Train, alors qu'il y en a certains qui m'ont dit ouais bof tu vas voir c'est un peu chiant, mais c'est un slasher que j'aime vraiment bien et je ne regrette vraiment pas de l'avoir découvert dans de bonnes conditions grâce à Rémy Lee.
Here we go, Eduardo. How's it? Hey, take it easy, man. What are you doing? Oh, my God. No.
Toujours chez Rimini, on va parler d'un autre film sorti la même année, qui jouit aussi d'une certaine aura de culte, puisque c'est Harlequin. Harlequin de Simon Windsor. Alors, Simon Windsor, il a fini par vendre son âme au diable et à faire sauver Willy. Je crois que c'est lui aussi qui a fait Crocodile Dundee. Mais au tout début de sa carrière, voilà, il va faire des films très intéressants, dont ce Harlequin. Avec le fameux Robert Powell. Robert Powell, acteur très, très charismatique, d'ailleurs, dont le charisme est très bien utilisé dans le film. Robert Powell, qui sortait donc tout juste d'avoir interprété ni plus ni moins que Jésus dans le film de Franco Zeffirelli. Et là, il campe cet Harlequin. Enfin, en fait, d'ailleurs, qui s'appelle pas Harlequin dans le film. Ici, il campe un certain donc Gregory Wolfe. Gregory Wolfe, qui en fait serait né à Strasbourg, serait mort. Voilà, on ne sait pas trop. C'est un personnage mystérieux. Mais en fait, c'est qui Gregory Wolfe? C'est la transposition en fait du personnage de Rasputin. Sauf que au lieu qu'il soit à la cour du tsar, là, il est en fait ce Rasputin moderne. Il est en fait dans l'entourage d'un homme politique australien qui est appelé à occuper les plus hautes fonctions en Australie, manipulé par son mentor, en fait. Cet homme politique, c'est David Hemmings, d'ailleurs. David Hemmings, qui est australien, donc qui a lui-même travaillé beaucoup en Australie. On le connaît pour avoir joué en Europe, par exemple, avoir été Marcus Daly dans Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, et qui était une relecture du blow-up d'Antonioni, où il avait également le rôle principal. Alors, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme politique qui meurt, il fait de la plongée, enfin il disparaît, son corps disparaît. Le favori pour lui succéder devient David Hemmings. David Hemmings, qui a fait un mariage de raison avec une femme assez classe, mais qui n'a pas de relation du tout avec elle. C'est un mariage vraiment. C'est une fille d'ambassadeur avec un homme politique. Enfin bon, voilà, c'est un mariage d'apparat. Hein. Et en fait, sa maîtresse, d'ailleurs, c'est son assistante, hein, à David Hemmings. Et sa femme, son officielle, comme l'on dit, elle passe tout son temps au chevet de leur enfant, parce qu'ils ont eu un enfant, et malheureusement, cet enfant, bah, il a une leucémie. Et il est gravement malade, évidemment, il est mourant. Et il est à deux doigts de mourir, hein, et tout à coup, apparaît, surgit de nulle part, un oiseau à la fenêtre de leur maison. Alors, une maison ultra sécurisée, en plus où on ne peut pas rentrer comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des chiens de garde, il y a une sécurité, il y a des portes automatiques qui se ferment. Alors, on est quand même en 80, à l'époque, tout le monde n'a pas des portails automatiques, hein, donc ça en jette. Il y a des caméras de surveillance partout parce qu'il y a un gros délire autour de la surveillance quand même, et des images, de l'utilisation des images en tant que vidéosurveillance. Et ben, on peut supputer, parce qu'on ne voit pas vraiment, que cet oiseau devient un homme, et c'est Robert Powell. Et Robert Powell arrive dans la maison et il guérit l'enfant. Il guérit l'enfant de la leucémie. Et évidemment, il devient du coup, comme Rasputin, hein, il devient du coup une sorte de mentor dont la femme ne veut pas se passer. Il devient en même temps son amant. Mais tout est un peu suggéré. On ne sait jamais vraiment s'il couche avec elle. On ne sait pas vraiment si le gamin est guéri, ou si, comme le supposent certains personnages, il lui a injecté des corticoïdes. Et du coup, ça donne l'illusion qu'il n'est plus malade temporairement, parce que le film se passe sur un laps de temps très court. Y a plein de choses que l'on ignore. Par contre, ce dont on est sûr, puisqu'il y a plusieurs scènes qui le révèlent, c'est qu'il a des dons télépathiques et qu'il a vraiment des pouvoirs, ce personnage incarné par Robert Powell. Il a un comportement de plus en plus étrange, et on ne sait pas s'il fait le bien ou s'il fait le mal, en quelque sorte. Et évidemment, tout cela va avoir des incidences petit à petit, à la fois sur la vie du couple, et puis on va sortir du microcosme, et on va s'étendre à toute la société, en particulier à la description d'une classe, qui est la bourgeoisie et le milieu politique australien. Et on va ausculter cette classe. Alors le film est très bien mis en image, hein, avec toute cette qualité plastique qui caractérisait ce qu'on a appelé la Ozploitation à l'époque, hein, c'est-à-dire toute cette vague de films australiens de grande qualité qui est arrivée à la fin des années 70, au début des années 80, tous ces films de série B qui ont enchanté le monde, dont parmi les plus connus, on a évidemment le Mad Max de George Miller, mais on a aussi Patrick de Richard Franklin, Link, alors Patrick, Link, Long Weekend de Colin Eggleston, qui sont tous des films scénarisés par Everett De Roche qui scénarise ce Harlequin. Everett De Roche, d'ailleurs, qui avoue avoir été on a un peu dénigré son scénario. Il n'est pas content du sort qui a été fait à son scénario. Son scénario qui allait beaucoup plus loin, qui était plus proche du personnage de Rasputin. Il y a par exemple une scène dans le film où on voit toute la bonne société qui est là et qui veut quand même connaître ce personnage, parce qu'ils en entendent parler comme d'une bête curieuse. Donc ils sont tous là, tous les grands donateurs à la campagne de campagne électorale, toute la bourgeoisie du coin, tous les gens de la haute, comme on dit. Et puis, ils veulent découvrir ce personnage. Évidemment, lui, il arrive avec son côté aussi très David Bowie, hein, voilà, dans son physique et tout, dans la manière de s'habiller, à un côté un peu androgyne, comme ça, très, très magnétique. Et il leur fait une démonstration qui, au début, les fait rire et qui, après, ne les fait plus rire du tout, parce qu'ils s'aperçoivent, au début, ils le prennent pour un charlatan. Puis quand ils commencent à faire voler des objets, quand ils commencent à vraiment devenir presque violents, ils sont plus intrigués, ils sont effrayés. Et d'après Everett De Roche, cette scène-là virait plutôt à la partouze. Quelque chose qui anticipait un peu ce qui se passe dans Society de Brian Usna, par exemple, parce que Rasputin provoquait des orgies comme ça dans l'entourage d'Alexandre II, je crois, si je ne dis pas dire de bêtises. Et donc Everett De Roche, et ça se sent, moi je trouve que le scénario est un peu déséquilibré, que dans la deuxième partie du film, on a réécrit le scénario d'Everett De Roche, parce que la première partie est passionnante et la deuxième partie du film est un peu plus bancale. Néanmoins, moi, je gardais un excellent film, parce que je l'ai vu très jeune, ce film. Je continue à avoir un attachement particulier à ce film, que j'aime vraiment, et j'aime beaucoup la prestation de Robert Powell. Et j'aime beaucoup le fait qu'on entretienne l'ambiguïté et qu'à la fin, je ne sache toujours pas sur quel pied danser.
Justement, je trouve que l'ambiguïté, tu le dis toi-même, le scénario déséquilibré, cette ambiguïté qu'on a à peu près pendant une heure, à la fin, je trouve qu'elle disparaît. Parce qu'à la fin, effectivement, on sent que c'est pas le même film. C'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent dans le sens où il y a des règlements de compte avec les gardes armés qui font sa fête au fameux Harlequin. Là. Et on a l'impression qu'il y a un problème de budget, qu'il faut finir le film. Quoi. J'ai cette impression-là. Et effectivement, moi, j'ai du mal à voir où veut en venir le film, à part là, qu'est dit la bourgeoisie, etc. J'ai un peu de mal à voir la finalité du film, en fait. Peut-être à cause de ça, peut-être à cause de cette dernière demi-heure qui est un peu, largement différente du reste. Et il y a ce truc-là, il y a cette scène qui, moi, me pose problème. À un moment, il y a la servante qui est très mignonne. Hein. Elle le voit, elle se déshabille devant lui et puis ça coupe. Et plus tard, elle dit qu'il l'a violée, etc. Et après avoir dit ça, elle prend un bain et elle se met du truc toxique sur les cheveux à la place du shampoing, de l'acide. Elle se met de l'acide dans les cheveux à la place du shampoing. Et bon, là, moi, il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, ça va dans une direction, ça va dans l'autre. Pour moi, ce n'est pas cohérent à ce moment-là. Donc j'ai un peu de mal, je trouve pas le film mauvais, mais pour moi c'est pas un film qui rentre dans mon panthéon.
Ah, dans le panthéon, tout de suite, les grands mots. Dans mon panthéon, il y a Sueur Froide, il y a Phantom of the Paradise. J'irai pas jusque-là, mais. Alors, effectivement, la dernière partie du film est déséquilibrée. Alors, moi, je pense que ça a fait peur. D'ailleurs, il n'a plus jamais retravaillé avec le producteur, hein, Everett de Roche. Il n'était vraiment pas content. Parce qu'on connaît les scénarios d'Everett de Roche. Il est subtil comme scénariste. Et effectivement, si on voit Long Weekend, qui est quand même l'un des tout premiers films écologistes, ouvertement écologistes de l'histoire du cinéma, voilà, et qui connaît une progression très lente avec un crescendo vers un film qui devient étouffant dans ses dernières minutes. Mais avant, il y a une heure et quart où, si on n'est pas patient, on se dit oh, il se passe rien là, mais en fait, il se passe plein de choses. Alors, Everett de Roche, c'est un scénariste subtil, je subodore que le producteur, comme tu dis Thomas, il a voulu faire un climax et qui est effectivement bah, cette jeune fille, elle se fait punir en fait pour l'avoir dénoncée. Et du coup, ça casse tout sur le personnage qui était effectivement ambigu, qui avait un côté presque christique, tout ça. Et c'est vrai que dans la dernière partie du film, en fait, dans la dernière partie du film, on découvre qu'il a réellement des pouvoirs et c'est beaucoup moins intéressant.
Oui. Puis surtout. C'est en contradiction avec ce qu'il fait avec cette jeune femme. Et s'il l'a vraiment violée, il veut aider ce politicien, etc. Il leur dit qu'il travaille pour des mecs véreux. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui est pas cohérent, quoi.
Effectivement, c'est plutôt un justicier. Alors après, certains l'interprètent en disant que c'est elle qui ment, donc elle est punie. Voilà.
Mais oui, mais il y a quand même la scène où on le voit dans le miroir, il l'hypnotise et puis elle découvre ses seins devant lui, etc.
Est-ce qu'il l'hypnotise ou est-ce que c'est elle qui a envie de coucher avec lui et qu'il se refuse à elle. Ambiguïté, toujours. Voilà. Mais bon, comme tu le dis, je partage assez sur la dernière partie du film, ce que tu dis. En tout cas, je rappelle que le film est disponible chez Rimini et que c'est quand même vachement mieux que Sauver Willy, quoi, voilà, du même réalisateur. Donc, on vous conseille grandement Harlequin, donc sorti chez Rimini de Simon Windsor.
Shattered.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.